Vous écoutez On lit pour vous.
Une clinique sur roues pour les tout-petits vulnérables à Montréal. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir. À compter d'avril 2025, la toute première clinique mobile montréalaise destinée aux petits âgés de 0 à 5 ans roulera dans des quartiers du nord de la ville. L'autobus de l'organisme Doc Toc Toc, qui est décoré de personnages orangés et souriants, permettra aux enfants vulnérables d'avoir un meilleur accès à des soins et services psychosociaux gratuits, affirme la pédiatre derrière le projet. Avec son bureau, sa salle d'accueil et sa pièce d'évaluation, le véhicule ressemble à une clinique pédiatrique standard, mais à plus petite échelle. Des images d'arbres, de parachutes et de ballons de toutes les couleurs ornent les murs. En 2017, la docteure Ghislaine Benkelfat a eu l'idée de ce projet tandis qu'elle se questionnait sur la façon de rendre les soins plus accessibles aux familles vulnérables. « Je me suis demandé comment nous pouvions innover au lieu d'attendre que ces familles viennent au service. » Dès le début, elle s'est associée à Jean-Philippe Couture, qui est actuaire de formation. Environ 8 ans plus tard, l'autobus est sur le point de prendre la route, avec 2 personnes qui travailleront pour l'instant au sein de l'équipe clinique, une intervenante psychosociale et une infirmière clinicienne. La première pourra déterminer les besoins des familles et les aider ensuite à s'orienter à travers les méandres du système de santé. La seconde pourra notamment recevoir des enfants lors de consultations sans rendez-vous. Elle pourra aussi vacciner les tout-petits. Certaines familles pourront aussi avoir des consultations avec rendez-vous lorsqu'elles seront dirigées vers la clinique par des organismes communautaires. Puis, l'infirmière pourra aussi faire les suivis réguliers qui sont prévus à différents stades de développement de l'enfant, explique la docteure Benkelfat. On est toujours dans l'idée d'être capable de repérer le plus tôt possible les problématiques pour lesquelles il faut intervenir, souligne celle qui est pédiatre à l'hôpital de Montréal pour enfants et professeure adjointe au département de pédiatrie de l'Université McGill. Le projet a d'ailleurs vu le jour notamment grâce à un partenariat de Doc Toc Toc avec McGill ainsi qu'avec la Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants. Iniquité en santé. La clinique mobile vise à recevoir environ de 6 à 8 patients par jour, précise la docteure Benkelfat. On veut une approche qui est personnalisée et qui permet aux familles de s'ouvrir. On veut s'attaquer à l'ensemble des besoins des enfants et pas seulement ceux de santé physique. Par exemple, lorsqu'on vit dans un milieu qui est insalubre ou qu'on manque de nourriture, ça a un impact sur la santé, illustre-t-elle. En tout, l'autobus se promènera dans 3 arrondissements, Saint-Laurent, Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville. On a choisi ce territoire car on y voit des iniquités encore plus présentes qu'ailleurs. On y retrouve des problèmes de santé avec des prévalences qui sont beaucoup plus élevées. Les services sont également et difficilement accessibles pour plusieurs familles de ces endroits, explique la docteure Benkelfat. Pour certaines personnes qui viennent d'arriver au pays, le fait de réussir à prendre rendez-vous dans le réseau peut être compliqué, notamment en raison de la langue, soutient la médecin. L'idée est vraiment de venir à elles au cœur de leur milieu de vie, affirme-t-elle. Dans chaque quartier, l'autobus Doc Toc Toc s'installera toujours au même lieu désigné, près d'organismes communautaires ou d'habitations à loyer modique, HLM. Les familles pourront donc patienter dans ces lieux en attendant d'avoir une consultation sans rendez-vous dans le véhicule. Et, par exemple, chaque jeudi matin, nous pourrions soit être à Saint-Laurent ou à Montréal-Nord. Ça reste à déterminer. La fréquence à laquelle nous irons dans chacun des quartiers va dépendre du volume de gens qui vont s'y présenter, dit la docteure Ghislaine Benkelfat. Un modèle à développer. Au Canada, Le modèle des cliniques mobiles est encore en émergence, explique la pédiatre. Puis, celles qu'on retrouve s'adressent beaucoup plus à une population adulte et itinérante. Aux États-Unis, on compte toutefois environ 3000 centres de santé sur roues qui traitent aux alentours de 10 millions de personnes par année, dit-elle. Ça a fait ses preuves. Avec le temps, l'autobus Doc Toc Toc aimerait ajouter une infirmière praticienne spécialisée, IPS, en soins de première ligne à son équipe à bord. La docteur Ben Kalfat souhaite aussi plus tard qu'elle ou d'autres collègues pédiatres puissent venir y faire des consultations pour les enfants. Mais pour l'instant, on commence vraiment petit, puis on grandit avec le temps pour s'assurer de pouvoir répondre à la demande, souligne-t-elle. C'était une clinique sur roues pour les tout-petits vulnérables à Montréal, un texte de Florence Morin-Martel paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir.
D'où vient la passion de Trump pour les droits de douane? Un texte d'Aurélia End de l'agence France-Presse paru le 1er avril 2025 dans Le Devoir. Donald Trump ne cesse de clamer son amour des droits de douane, qui se nourrit de nostalgie historique, d'un goût personnel pour la castagne diplomatique et de réflexions économiques plus construites. Je dis toujours que « droit de douane », c'est pour moi le plus beau mot du dictionnaire, a encore dit le président américain en janvier, juste après avoir prêté serment. Il y voit un outil capable de régler tous les maux de l'Amérique. Les taxes douanières, à l'entendre, vont permettre de rapatrier des usines tout en remplissant les caisses publiques et en résorbant le déficit commercial. Mercredi 26 mars 2025. Le milliardaire de 78 ans a promis aux États-Unis un jour de la libération, passant par l'annonce de taxes douanières réciproques, censées mettre fin à des décennies pendant lesquelles la première économie mondiale a selon lui été arnaquée par ses partenaires commerciaux. Interrogé sur le risque de la flambée des prix, puisque les droits de douane sur les produits importés sont en général répercutés sur les ménages, le président américain a invité les Américains à serrer les dents à court terme contre la promesse d'un âge d'or à long terme. Pendant son premier mandat déjà, le président américain avait usé de l'arme douanière. Projet 2025. Rien de surprenant à ce que l'ancien promoteur immobilier, qui conçoit la négociation diplomatique comme un marchandage d'affaires, apprécie autant les droits de douane, des décisions qui instaurent immédiatement un rapport de force et qui permettent de marteler une rhétorique nationaliste. Cette fois, l'approche semble plus construite, même si Donald Trump ne se prive jamais de volte-face spectaculaire et a jusqu'ici menacé plus qu'il n'a taxé. Pour mieux comprendre son projet, voyons ce que Peter Navarro, aujourd'hui conseiller au commerce de Donald Trump, écrivait dans le projet 2025, ce programme de gouvernement très conservateur et extrêmement détaillé qui inspire de nombreuses décisions de l'administration Trump 2.0. L'Amérique se fait plumer chaque jour, assène-t-il dans une contribution intitulée « Pour un commerce équitable » en appelant à renverser le dogme du libre-échange. Cette idéologie mondialiste élaborée dans une tour d'ivoire universitaire. Peter Navarro, dont plusieurs éléments de langage ont été adoptés par Donald Trump et la Maison-Blanche, appelle en particulier à répliquer contre les barrières non tarifaires, en clair à assommer de droits de douane les pays qui, selon lui, protègent leur marché par des normes et régulations. Il est intéressant de noter que son analyse est suivie dans le volumineux document d'un contre-argumentaire signé de Kent Lassman, partisan d'un libre-échange régulé. Ce lobbyiste dont l'opinion n'a de toute évidence pas prévalu, appelle à faire preuve d'humilité dans la politique commerciale en écrivant « Ce n'est pas une panacée ». Âge doré. Le protectionnisme à la Trump trouve aussi son inspiration dans une période particulière de l'histoire américaine, l'âge doré, the Gilded Age, une période de croissance démographique explosive, d'innovation technologique fulgurante et d'industrialisation à grande vitesse, couvrant la fin du 19e siècle et le début du 20e. L'une des premières décisions de Donald Trump à son retour au pouvoir a été de rendre hommage à celui qu'il a qualifié de « roi des droits de douane », le président William McKinley, 1897-1901, grand partisan du protectionnisme. Le républicain a décidé de redonner au Denali, plus haut pic d'Amérique du Nord situé en Alaska, son ancien nom de Mont McKinley, qui avait été modifié selon le souhait des populations autochtones. Les États-Unis n'ont jamais été aussi riches qu'entre 1870 et 1913, dit souvent le président américain, affirmant que cette prospérité révolue s'expliquait par les droits de douane élevés alors en vigueur. Les historiens soulignent que le fameux âge doré, s'il a permis l'enrichissement faramineux de certains grands banquiers ou capitaines d'industrie, a été synonyme de cruelle pauvreté pour des millions de personnes. L'époque doit son nom à un féroce roman de Mark Twain et Charles Dudley Warner, The Gilded Age, A Tale of Today, peuplé de spéculateurs cupides et de politiciens corrompus. C'était « D'où vient la passion de Trump pour les droits de douane », un texte d'Aurélia End, de l'agence France-Presse, paru le 1er avril 2025 dans Le Devoir.
Turbulence à la bourse, le citoyen doit garder la tête froide, un texte de Daniel Leblanc, paru le 8 avril 2025 dans Le Droit. Comme investisseur, du plus prudent au plus aventureux, rien ne sert de sombrer dans la peur et d'agir de façon irréfléchie face aux montagnes russes des marchés boursiers des derniers jours, croient des experts en gestion de portefeuille. Au contraire, on doit idéalement laisser le mauvais temps passer et demeurer rationnel, insiste-t-il. Incertitude égale volatilité, mais volatilité égale opportunité, lance Philippe Pratt, président, chef des investissements et gestionnaire de portefeuille de la firme Pratt Gestion de portefeuille. Il recommande aux gens inquiets et stressés par la volatilité actuelle du marché boursier de ne pas poser de gestes précipités sur un coup de tête. L'expert plaide que les investisseurs de détail ne doivent pas peser en panique sur le bouton « vente » puisque cela pourrait être catastrophique à long terme. Tous les 14 mois, il y a un repli de 10 % en moyenne, de 20 % aux 2,7 années et de 30 % tous les 5 ans. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on voit des replis comme ça. On écrit l'histoire, oui, mais ça rappelle beaucoup la COVID, dit-il. Il y a aussi l'indice de la peur, indicateur de la volatilité sur les marchés boursiers, et beaucoup de ventes à découvert. Pour illustrer à quel point tout fluctue rapidement, M. Pratt signale à titre d'exemple qu'à l'ouverture des marchés lundi, ça a viré de bord complètement en raison d'une nouvelle qui s'est révélée fausse, suivi d'un rebond positif. On a ouvert jusqu'à moins 5 % et peu de temps plus tard, on était à plus 3. C'est un déplacement de 8 % en 15 minutes. Se repositionner pour le commun des mortels est impossible. C'est important de rester investi, lance-t-il. L'important est de s'assurer que nos besoins en capitaux à long terme soient toujours mentionnés, bien évalués avec notre conseiller financier. Le discours est fort similaire pour Martin Lalonde, président et gestionnaire de portefeuille chez Investissement Rivemont. Moi, la première chose que je dis, c'est « Est-ce que votre profil de risque d'investisseur est à jour? Et êtes-vous confortable avec celui-ci? » Ce profil, c'est ce qui dicte ce qu'on est, de quoi va être construit notre portefeuille, sachant très bien qu'il y a des périodes ou années moins faciles, explique-t-il. L'objectif, c'est d'avoir un portefeuille le plus agressif, mais qui ne nous fera pas décider de ne pas investir quand ça va mal. Monsieur Lalonde l'admet, c'est une mince ligne, mais il rappelle que c'est lorsque ça va moins bien que la tolérance au risque est bien reflétée et que le moment est alors propice à la réflexion. La volatilité va être là pour toujours. Le marché des actions, il y a une raison pourquoi il donne entre 8 et 19% depuis 200 ans. C'est risqué, mais on n'a rien pour rien dans la vie, soutient-il. Ce n'est pas anormal qu'il y ait de la volatilité dans les marchés, c'est même prévu, ça fait partie des scénarios. Des fois c'est Trump, parfois une crise financière ou encore une pandémie. La pire chose à faire dans une période comme celle que l'on vit depuis plusieurs jours est de liquider son portefeuille, avance-t-il, car on profitera de la baisse, oui, mais on ne profitera pas de la hausse. De plus, à son avis, si on a trop mal lors d'une diminution, c'est que notre dossier a été mal construit. Complètement artificiel. Selon Philippe Pratt, ce qui se passe actuellement est une situation complètement artificielle, car le président américain a choisi de lancer une guerre commerciale alors que l'économie de son pays est toujours robuste. Il ne faut pas l'oublier. Trump, c'est un showman. Va-t-il attendre à la dernière minute pour annoncer quelque chose? On a juste besoin de positif, même juste un peu, pour relancer les marchés à la hausse, explique-t-il. S'il y a moindrement d'ouverture de Washington, de place à la négociation ou des délais allongés, ça va rebondir. Les gens qui ont des investissements ne doivent pas poser de gestes émotifs. Preuve que tout peut bouger rapidement, en analysant les fluctuations des derniers jours, ce dernier estime que l'hypothèse d'avoir une hausse de 10% sur 3 ou 4 jours d'ici peu n'est pas écartée. On vend quand c'est vert et on achète quand c'est dans le rouge, clame M. Pratt, contrairement à ce que certains pourraient croire. C'est un équilibre. Quand le marché est rouge comme en ce moment, on veut éviter de prendre des décisions émotives et de vendre des actifs risqués. Il faut détecter les opportunités, par exemple en technologie. Il faut être capable de les détecter. Il y a des sociétés à prix réduit. Ultimement, la décision de vendre des actions qui ont performé et d'en acheter qui sont à rabais revient cependant au propriétaire du portefeuille. Qui est le mieux placé pour connaître son niveau d'audace, ajoute-t-il. La nature humaine, mais... Martin Lalonde affirme pour sa part que si nos objectifs financiers sont dans 2, 3, 5, 10, 20 ans, les soubresauts actuels risquent bien d'avoir très peu d'impact sur nos visées. Le téléphone de la firme ne sonne pas nécessairement plus avec des investisseurs stressés au bout du fil. Ce n'est pas si pire. Cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas inquiets, car c'est la nature humaine. Et ils le sont avec raison, c'est normal, dit-il. Cela étant dit, je ne pense pas qu'il y aura des impacts sur les portefeuilles à long terme. Garder la tête froide est la meilleure attitude à adopter, pense ce dernier, qui rappelle qu'on n'en est pas à notre première montagne russe de l'histoire. Il faut continuer à garder le cap en gardant bien en tête que d'établir un bon profil de risque, c'est toujours important. Si c'est bien fait au départ, ça permet de mitiger les risques, détaille M. Lalonde. Il est ardu à bien des égards d'établir des comparatifs avec la pandémie de COVID-19 et la situation actuelle pour les marchés boursiers, croient les deux experts. Une pandémie mondiale, peu de choses peuvent être aussi pires. Présentement, ce qui est inquiétant, c'est de voir les investisseurs qui ne savent pas qui seront les gagnants ou qui seront les perdants, note M. Lalonde. Selon les décisions politiques qui sont prises, ça avantage certaines personnes ou compagnies, ça en désavantage d'autres. Le but est de trouver ces opportunités pour en faire profiter nos investisseurs. M. Pratt, pour sa part, plaide que la pandémie a surtout été beaucoup plus difficile à naviguer. Parce que l'écart entre les anticipations les plus optimistes et les plus pessimistes était tellement large que cela a été extrêmement difficile à naviguer. Là, on est dans l'incertitude qui crée de la volatilité, oui, mais on n'est pas dans un confinement. On parle de supposition, explique-t-il. À son avis, la récession sera difficile à éviter au pays, une situation qu'a d'ailleurs évoquée le premier ministre et chef libéral Mark Carney en campagne électorale lundi. Pour le Canada, les États-Unis est notre plus gros partenaire et il nous impose une barrière. Ce ne sera pas facile dans les prochaines années. Nous ne sommes pas sortis du bois au Canada, s'exclame M. Pratt. Comme contrebalancier potentiel aux tarifs pour l'impact sur les marchés, celui-ci rappelle toutefois qu'on n'a pas encore l'autre partie de la médaille, soit le grand plan fiscal que prévoit déployer l'administration Trump. C'était « Turbulence à la bourse, le citoyen doit garder la tête froide », un texte de Daniel Leblanc, paru le 8 avril 2025, dans Le Droit.
La bénévole Éléonore Galland, toujours enthousiaste à servir sa communauté. Un texte d'Évérard Maillet, paru le 26 mars 2025 dans Le Moniteur acadien. À 82 ans, Éléonore Galland, née Alain, originaire de Fonds-de-l'Abbé, continue de faire du bénévolat. Elle s'adonne à cette activité communautaire depuis son adolescence. Née à Saint-Édouard-de-Kent, elle a d'abord fréquenté la petite école de sa localité qui regroupait tous les élèves du primaire dans une même classe. Éléonore était très jeune lorsqu'elle a intégré le marché du travail. « Je n'avais que 13 ans quand j'ai occupé mon premier emploi dans une usine de transformation de homard en Nouvelle-Écosse. Je suis restée là pour environ 2 mois et ça payait 20 $ par semaine, en plus d'être nourrie », se souvient Mme Galland. D'un même souffle, elle ajoute qu'elle éprouvait beaucoup d'ennui envers ses parents, compte tenu du fait qu'elle habitait alors dans une autre province. Par la suite, enfin de retour dans son coin de pays, Éléonore a continué de travailler pendant plusieurs années dans l'industrie reliée à la pêche commerciale. Dans l'accomplissement de son labeur, elle exerçait des tâches d'usine répétitives, et ce, d'autant plus dans des conditions relativement difficiles. Mais Éléonore ne se plaignait pas pour autant. Finalement, avant même d'atteindre l'âge adulte, elle manifestait déjà le désir de s'impliquer bénévolement au sein de sa communauté en faveur de diverses causes à but non lucratif. à l'instar de son père, Zéphyr Alain, un bénévole inlassable qui était très bien connu à Bouctouche, Éléonore développait ainsi le besoin de donner de son temps libre et de s'impliquer, elle aussi, en faveur de diverses causes à but non lucratif. Aussi loin que je me rappelle, j'ai commencé très jeune à faire du bénévolat, comme du babysitting, et je n'en changeais rien. Et j'ai toujours ce plaisir de faire du bénévolat, surtout pour du monde dans le besoin. À vous, Madame Galland. L'infatigable bénévole ajoute qu'elle est à tout moment disponible pour amasser de l'argent au profit d'importantes causes communautaires, notamment des tirages 50-50 ou toutes autres activités de collecte de fonds. Éléonore Galland a récemment pris une part active au bon déroulement du carnaval annuel des Amis de Sainte-Anne-de-Kent. À cet égard, le déjeuner communautaire s'avère très populaire d'une année à l'autre, ce qui attire de partout des centaines de convives pendant les quelques jours du carnaval. Ça fait pas moins d'une trentaine d'années que je fais du bénévolat pour le carnaval de Sainte-Anne. Mais je ne suis pas seule, parce que c'est vraiment un merveilleux travail d'équipe et grâce à tous les bénévoles, c'est toujours une belle réussite, explique-t-elle sur un ton humble. Depuis des années, cette bénévole exemplaire et assidue participe également à la préparation de lunchs qui sont servis après des funérailles. L'épouse de Léo Galland agissait récemment à titre de bénévole dans la cuisine du Club de tir de Kent, où un déjeuner fut organisé pour venir en aide financière aux Vestiaires Saint-Jean-Baptiste et Banque alimentaire. Ainsi, Éléonore ne refuse jamais de faire sa part pour toute cause qui vise à aider les autres. En fait, cette octogénaire affirme qu'aussi longtemps que sa santé lui permettra, elle se dévouera sans cesse pour des initiatives locales qui lui tiennent à cœur et qui contribuent au mieux-être des individus, d'un organisme ou de toute une communauté. C'était la bénévole Éléonore Galland, toujours enthousiaste à servir sa communauté. Un texte d'Évérard Maillet, paru le 26 mars 2025 dans Le Moniteur acadien.